mesurer le développement qu'il y a eu entre Lumen Gentium et le catéchisme sur cette question instrumentalité-finalité. Si vous prenez Lumen Gentium, vous savez, tout à fait au début de Lumen Gentium, l'Église comme mystère. Mais immédiatement après, on vous parle de l'Église instrument du salut pour l'union des hommes avec Dieu et entre eux et avec Dieu. Donc, le mystère, c'est l'instrument, en quelque sorte. Bon, c'est pas vrai, et ensuite, évidemment, dans loin, si vous prenez le plan de Lumen Gentium, vous voyez qu'il y a, jusqu'au chapitre 5, vous avez une ligne descendante. Qu'est-ce que c'est? C'est les médiations qui structurent l'Église, qui viennent du Christ et qui structurent l'Église. Les ministères, l'apostolicité, etc. Puis vous arrivez au chapitre 5, c'est là l'appel universel à la sainteté. Et là, vous avez une espèce de retournement et vous partez sur la ligne ascendante, c'est-à-dire le retour de l'homme vers Dieu. Donc, appel universel à la sainteté, la vie consacrée, le caractère eschatologique de l'Église, hein, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, la Vierge Marie. Donc, vous avez la ligne descendante au service de la ligne ascendante du retour. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Et que si ces deux choses se cassent, et si on prend la ligne descendante comme étant le but, c'est une vraie catastrophe. Toutes les fois que dans l'Église, parce que cette ligne descendante, c'est ce qu'on appelle la ligne du sacré. C'est la ligne du sacré. Sacré qui, en grec, se dit hiéros, et hiéros donne hiérarchie, principe de communication sacrée, donne doctrina sacra, car en latin, ça se dit sacrum, ou sacer, qui donne le sacerdoce et qui donne toutes les formes de sacralité, doctrina sacra, c'est-à-dire révélation, etc. Tout ce qui vient de Dieu par les médiations que lui-même établit. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu d'autre médiation que la grâce elle-même. Mais la grâce aurait pu faire son travail. Mais comme il y a le péché, il faut que la grâce soit communiquée par des médiations. Il faut que le Verbe s'épaississe, selon une expression chère à Origène, qu'il devienne parole d'écriture, événement, institution, etc. Vous voyez, pour qu'il puisse communiquer une grâce que l'homme ne se laisse plus pénétrer. Dieu ne peut plus venir simplement à la brise du soir, dans la brise du Saint-Esprit, on peut le dire, hein, parler avec l'homme et le conduire de l'intérieur. Non, il faut des quantités de médiation, hein, la loi, etc., les sacrements de l'ancienne alliance, les sacrements de la nouvelle alliance, les paroles du Christ, etc., il nous faut tout ça, et une hiérarchie, et un magistère, et tout ça. Mais si tout ça est au service, est ordonné à, un instrument est toujours ordonné à quelque chose, c'est-à-dire finalisé par l'œuvre qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'il vise à produire? Il vise à produire le peuple, un peuple appelé à la sainteté. Et c'est là qu'apparaît le mot qui n'est plus le mot sacré, mais le mot saint, qui ne se dit pas hieros, mais qui se dit hagios. Et qui se dit sanctus. C'est ici, nous sommes dans une sainteté, d'une sacralité objective, qui est encore instrumentale. Ici, nous sommes dans une participation finale. Et ça, c'est ce domaine est le domaine christologique. Ici, nous entrons par la christologie, par le Christ qui nous donne le Saint-Esprit, dans le domaine pneumatologique. Et dans mon livre sur le Saint-Esprit, sceau de la Trinité, j'ai montré l'articulation, vous voyez comment tout ce qui nous est donné par le Christ à travers toutes les médiations de son incarnation, etc., est en fait là pour faire en nous cet homme nouveau qui va pouvoir entrer dans quel mystère ? Dans un mystère d'amour, de sainteté, de réponse d'amour, qui est un mystère sponsal. Et c'est le mystère de la femme dans l'Église. Et donc, le mystère de Marie. Et c'est pour cela que Jean-Paul II, en nous donnant cet extraordinaire développement à la fois sur le mystère de Marie et sur le mystère de la femme, a remis l'Église en perspective de sainteté. C'est-à-dire que tout ça, c'est très bien et c'est très nécessaire, mais il faut la perspective de la sainteté. Parce que sinon, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a eu la réforme et pourquoi est-ce qu'on a fini par abandonner l'instrument PTP ? Eh bien, c'est qu'elle n'apparaissait plus. Elle n'apparaissait plus comme ordonnée à la sainteté. Quand vous avez une curie romaine qui vit dans le scandale et des papes qui vivent dans le scandale, quand vous avez des évêques qui sont de grands seigneurs et qui... Ben, vous ne voyez plus le lien instrumentalité-finalité. Les saints le voient, mais il faut être des saints. Mais une grande partie du peuple chrétien ne le voit plus. Où viennent les hérésies ? Un grand doute sur le dispositif ecclésial. Et vous savez, bon, nous avons... C'est des choses que nous expérimentons quand même aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas m'alourdir, mais il y a des choses qui sont parfois très lourdes. C'est pour cela que c'est si important. Regardez tout ce que dit le pape François, et de remettre l'Église dans la... toujours dans la même ligne de ce qu'avait commencé Jean-Paul II et Benoît XVI et tout ça, mais pourquoi est-ce que Benoît XVI commence sa première encyclique par la charité ? Parce que tout est finalisé par la charité. Alors je vous lis le catéchisme, et vous allez voir que par rapport... c'était dans, je vous dis là, le plan de Lumen Gentium, il est ce que je vous ai mis là. Donc en fait, ça veut dire que tout est finalisé par la sainteté et la charité. Mais... c'était pas dit au début de Lumen Gentium. Quand on parlait du mystère de l'Église, immédiatement on passait à l'aspect sacramentel et à l'aspect instrumental. Or, on s'est rendu compte dans le moment de la rédaction du catéchisme que entre le concile et le moment de la rédaction du catéchisme, il y avait eu un développement et que Jean-Paul II avait donné un véritable développement ecclésiologique, aidé d'ailleurs par tout ce qu'avait développé, entre autres, Urson Balthazar sur la nuptialité, etc., qu'il était nécessaire d'intégrer dans le catéchisme. Et ça a donné ça, c'est les numéros 772 et 773 du catéchisme. Je vous les dis, vous allez comprendre tout de suite, ils sont très très beaux, sont très lumineux, et maintenant le catéchisme a d'abord 772, un sous-titre, l'Église, mystère de l'union des hommes avec Dieu. Et ce n'est qu'au 774 que l'Église apparaît comme sacrement universel de salut. Autrement dit, d'emblée, on contemple, on considère l'Église d'abord dans sa finalité, que dans son instrumentalité, pour qu'il soit clair que toute l'instrumentalité est au service et ordonnée à la finalité. C'est très important, vous voyez. Parce que dès que le sacral et la sainteté se disjoignent, il y a problème. Hein, les sacrements peuvent exister sans, comment dire, alors que le ministre du sacrement n'est pas en grâce. Nous le savons. Le caractère. Mais l'Église, non. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit l'Église est sacrement. Quand il dit veluti sacrament, comme un sacrement. Pourquoi ? Parce que le sacrement, on peut l'arrêter à l'arrêt et sacramentum. On peut l'arrêter à ce qui est fait ex opere operato. Les caractères, par exemple, la transsubstantiation dans l'Eucharistie. Mais le but de l'Eucharistie, ce n'est pas la transsubstantiation, on risque peut-être de choquer, c'est que nous en devenions nous-mêmes, en communion à l'Eucharistie, que nous fassions de notre vie une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu. C'est ça le but. La transubstantiation, c'est de la res et de sacramentum, c'est-à-dire que est rendu présent ce Christ qui va devenir notre nourriture pour que nous soyons nous-mêmes christifiés par le Saint-Esprit. Et c'est tout le passage de la dimension instrumentale à la dimension finale qui est exprimée dans les épiclèses. C'est tout le sens des épiclèses. Et puis, que vous voyez très bien dans les prières eucharistiques, la dimension épiclétique qui donne à chaque fois la dimension de la fidélité du sacrement. Et notre théologie latine, scolastique, c'est trop centré à la suite même de saint Augustin, parce que ça s'est fait contre les donatistes qui voulaient que les sacrements ne soient efficaces qu'à la proportion de la sainteté du ministre. Saint Augustin a dû dire non, il y a une efficacité du sacrement qui est indépendante de la dignité du ministre et même de la dignité de celui qui le reçoit. Il y a une efficacité objective, instrumentale, qui se réalise ex opere operato du moment que l'on pose l'acte du Christ en son nom, de manière valide. Et du coup, l'Occident s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup focalisé sur cela, en oubliant que tout ça, c'est pour nous communiquer, dans le vocabulaire augustinien et thomiste, une res qui est la grâce sanctifiante, c'est-à-dire un aspect de la charité. Chaque sacrement nous donne la charité selon une perspective, charité pastorale pour le prêtre, charité conjugale pour les conjoints, la charité de la repentance pour celui qui se confesse, charité de l'offrande de toute sa vie pour celui qui communie à la messe, etc. Ce sont des formes de la charité, c'est toujours au service de la charité. Donc, c'est toujours une communication de l'Esprit Saint, cette dimension pneumatologique. Le Christ, il est rempli de l'Esprit Saint, il veut nous donner l'Esprit Saint, c'est-à-dire il veut nous donner l'amour qu'il a pour le Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Donc, je vous lis les numéros 772 et 773. C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce but ? Récapituler tout en lui. Saint Paul appelle grand mystère, Éphésiens 5, 32, l'union sponsale du Christ et de l'Église. Parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux, l'Église devient elle-même à son tour mystère. Contemplant en elle le mystère, saint Paul s'écrit « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Et numéro 773, « Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu par la charité qui ne passe jamais, 1 Corinthiens 13, 8, est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui passe. » Pourquoi est-ce qu'au ciel il n'y a plus de sacrement ? Parce que la fin du sacrement est atteinte. Dieu sera tout en tous. Le Christ sera tout en tous. Donc il n'y a plus besoin de la médiation parce qu'il y a la communion. Le mystère, c'est la communion. La médiation est l'instrument qui nous permet cette communion. Et alors, ici, le catéchisme cite Jean-Paul II dans Ça ne vous éteindra pas, Mulieris dignitatem, la lettre sur la dignité de la femme de 1988. Sa structure, la structure de l'Église, est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère dans lequel l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. Catéchisme commente, Marie nous précède tous dans la sainteté qui est le mystère de l'Église, comme, citation de nouveau de Mulieris Dignitatem, l'épouse sans tache ni ride. C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. Précède au sens à la fois chronologique, parce que Marie est première Église à l'Annonciation, comme selon le titre de ce très beau livre de Urso Balthazar et de Joseph Ratzinger, Marie première Église, c'est la première qui donne une réponse de foi chrétienne. Avant, on est dans une foi encore vétérotestamentaire, une foi d'attente. Marie en disant le fiat de l'incarnation, le fiat de l'annonciation, donne la première foi chrétienne. Donc elle est la première Église, mais aussi elle est première dans le sens de la perfection. C'est que c'est en elle que va s'achever vraiment l'œuvre de Dieu dans l'Église. Le but du dessein de Dieu, c'est la Jérusalem céleste, et en celle qui en est la perfection, qui donc la contient toute dans son fiat. Donc vous voyez, c'est incontestablement, c'est tout ça extrêmement traditionnel, hein, mais le magistère n'arrête pas, enfin, la tradition de l'Église n'arrête pas sans cesse de se renouveler et de découvrir sous un jour nouveau des choses qu'elle portait en elle depuis toujours. Incontestablement, on est passé, il y a un dégagement par rapport à une conception où l'ecclésiologie, la sacramentaire, etc. était uniquement centrée sur le côté des moyens, avec le grand danger qu'on prenne les moyens pour la fin. Donc, ceci, joue, vous voyez, si vous mettez le Christ comme but du dessein de Dieu, vous mettez malgré tout le moyen comme vous lui donnez raison de faire. Le Christ lui-même, il est là pour nous conduire vers le Père. Et nous conduire vers le Père par la sainteté que le Saint-Esprit nous donne à travers le Saint-Esprit. C'est là la perspective. Vous avez deux perspectives. La perspective de scotiste est très christocentrique, est très anthropocentrique. La perspective antérieure, celle des pères, est plus centrée sur la Trinité. Chaque personne jouant son rôle dans l'économie divine, le Père qui est la source du dessein bienveillant du Père, le Fils en qui ce dessein s'accomplit, par qui ce dessein s'accomplit, et le Saint-Esprit qui est la communion parfaite avec le Père, qui nous conduit vers le Père en faisant de nous des fils. Sans le Saint-Esprit, le Christ nous resterait comme un modèle magnifique, mais extérieur en quelque sorte. C'est le Saint-Esprit qui l'a introduit, le Christ en nous, qui fait que nous devenons participants de lui au niveau le plus profond, qui est le niveau de sa filiation, de sa communion filiale avec le Père. Et ça, c'est ce mystère sponsal dans lequel le Saint-Esprit nous introduit. L'Esprit et l'Épouse disent viens Seigneur Jésus, c'est la fin de l'Apocalypse, hein, c'est le moment où descend la Jérusalem comme une épouse parée pour son époux, la demeure de Dieu avec les hommes. C'est cela le but de tout ce qui se fait. Et je vous disais, là, dans sa dernière lettre apostolique, Jean-Paul II a laissé à l'Église du troisième millénaire, comme une sorte de testament spirituel, une injonction de dire, mais n'oubliez pas la sainteté. Ne restez pas centré sur le fonctionnement de l'Église. Dans une perspective qui forcément est cléricale, qu'elle soit cléricale des prêtres ou cléricale des laïcs cléricalisés, mais c'est pareil. C'est que ceux qui devraient être serviteurs orientés vers le but de tout cela se centrent sur le fonctionnement du dispositif. Vous voyez, c'est l'enjeu est spirituellement très important. Alors, attaquons-nous, si vous voulez, maintenant à comment les pères voient justement le dessein bienveillant de Dieu et pourquoi il a fallu l'incarnation à la suite du péché. Si vous prenez les textes, le second jeu de texte, vous allez voir, le numéro 1 est une citation de Saint Léon le Grand que je donne dans mon introduction à la page 17. Pour ceux qui voudront s'y reporter. Voilà ce que disait Saint Léon dans un de ses sermons pour Noël. Je n'ai cité qu'un texte de Saint Léon, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai cité un qui me semblait particulièrement parlant. Il fallait donc, selon l'économie du dessein secret, que Dieu, qui ne change pas et dont la volonté ne peut être séparée de sa bonté, accomplit par un mystère plus caché la première disposition de sa piété et que l'homme, entraîné dans la faute par la fourberie du démon, ne vint pas à périr, contrairement aux propos de Dieu. Contra Dei proposito. Donc Dieu avait un dessein, un propos, qui était de mener Dieu, l'homme à la sainteté. Et il y a eu le péché. L'homme entraîné dans la faute par la fourberie du démon. Et donc Dieu introduit ce qu'il appelle un mystère plus caché, sacramento occultiore. Il accomplit par un mystère plus caché, voyez l'instrumentalité, la première disposition de sa piété, le dessein bienveillant. Vous avez ça, l'écho de ça dans la liturgie elle-même. Je l'ai donné en exergue de mon livre, deux textes de la liturgie. Là, la préface de l'Avent, que nous allons bientôt entendre de nouveau. Il est déjà venu, le Verbe, le Fils, en prenant la condition des hommes pour accomplir le dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il est venu pour accomplir le dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le Christ est référé au dessein d'adoption filiale. C'est parce qu'il y a ce dessein d'adoption filiale que le Fils, fondement archétypal de ce dessein dans la Trinité, se fait homme. Ce n'est pas parce que le Christ était lui-même voulu pour lui-même qu'ensuite il en découle un dessein. L'ordre est inversé. Il y a quelque chose auquel se réfère l'incarnation, qui est un dessein divin éternel. De même, dans l'une des préfaces des dimanches ordinaires, la septième préface des dimanches ordinaires, nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. De quelle alliance s'agit-il ? Pas celle de Moïse. En tout cas, pas d'abord celle de Moïse. C'est le péché originel. Donc, ça veut dire que avant, le péché originel a été une rupture d'une alliance fondamentale et primordiale, qui est celle de l'adoption filiale d'Adam, qui a été rompue, perdue, et que nous retrouvons dans le Christ. Donc ça veut dire que le Christ lui-même intervient pour refaire ce qui avait été donné par Dieu à Adam et que Adam a tenu pour rien, a détruit, a fait échouer. Donc voilà, si vous voulez, ce texte de Léon le Grand est très typique de la manière dont les pères voient les choses. Le magistère montre bien que, je vais vous citer un texte de Redemptoris Mater de Jean-Paul II, qui est là, le texte numéro 2, que Dieu, dans le dessein de Dieu, il y a en même temps un élément inconditionnel qui est le but de ce dessein, qui est l'adoption filiale, et puis l'élément conditionné qui est tout le dispositif salvifique consécutif au péché d'Adam. Car où apparaît pour la première fois, où les pères voient pour la première fois apparaître le Christ dans l'Ancien Testament, à votre avis, c'est où? Où est-ce qu'ils voient tous la première annonce du Christ dans l'Ancien Testament? Ben c'est en Genèse chapitre 3, ce qu'on appelle le proto-évangile. Qu'est-ce que c'est que le proto-évangile? C'est quand Dieu apparaît après le péché d'Adam et dit à la femme que sa descendance écrasera la tête du serpent. C'est là que toute la tradition voit Christ. Il ne le voit pas avant le péché originel, nulle part. Il est là. Oui. Ça veut dire que le relèvement d'Adam et Ève, la réconciliation d'Adam et Ève et toutes les autres interventions de grâce avant le Christ se font en fonction du Christ à venir. C'est parce que le Rédempteur est là que tout ce dispositif de grâce, qui va être l'ancienne alliance avec différentes étapes, sous la loi de nature jusqu'à Abraham, ensuite la loi de la promesse, l'état de promesse, et puis l'état de loi après Moïse, et même on peut dire l'état de Messie promis à partir de David. des économies. Vous voyez, c'est là où Irénée parle tantôt d'une économie, parce que le dessein de Dieu est unique en fonction du but unique qu'il poursuit, et il parle aussi d'économie au pluriel, parce que les moyens, les états existentiels de grâce ne sont pas les mêmes avant la promesse, avant la loi, et à partir de la promesse du Messie. À chaque fois, ils deviennent de plus en plus riches, je dirais, de médiation, mais c'est toujours évidemment le même but qui est poursuivi, et s'accomplissent dans le Christ. Alors, j'ai trouvé dans le développement le plus riche, le plus intéressant sur le dessein de Dieu, dans sa maxime, le confesseur, cela ne vous étonnera pas, entre autres choses, d'abord parce que c'est un auteur, un père de l'Église que j'ai beaucoup fréquenté en faisant ma thèse, qui portait sur la divinisation par la charité chez saint Maxime. Et donc, j'ai été amené à écrire un long article que j'ai repris dans le premier chapitre de mon livre, Le dessein d'adoption en référence au Fils selon Maxime le Confesseur. Ah oui, je ne vous ai pas lu le texte de Rédemptoris Mater. Voilà, vous l'avez, c'est le texte numéro 2. Si Dieu a voulu de toute éternité appeler l'homme à être participant de la nature divine, voilà le but du dessein de Dieu. On peut dire qu'il a prédisposé la divinisation de l'homme en fonction de sa situation historique, de sorte que, même après la faute, il est prêt à rétablir à grand prix le dessein éternel de son amour par l'humanisation de son Fils qui lui est consubstantiel. Et ça va quand même très loin dans ce sens-là, sans que pour autant le magistère ait tranché de manière définitive. Et je crois que c'est très bien que c'est un domaine qui reste ouvert à la recherche théologique. Mais vous voyez que ça va quand même bien dans ce sens-là, quand texte a été bien, bien pesé là, visiblement, dans le sens. Donc il y a un propos, un unique propos, un unique but, mais après, il va donner des moyens de grâce différents suivant les états existentiels et historiques de l'homme avant le péché, après le péché, avant la promesse, après la promesse, avant la loi, après la loi, avant le Messie promis, après le Messie promis, avant le Christ, le Messie advenu, après le Messie advenu, etc. Vous voyez, jusqu'à notre... D'où cette pluralité d'économies qui n'est qu'une pluralité de moyens de grâce, car tous ces moyens de grâce sont finalisés par le même but, y compris le Christ, qui est le Christ est comme le moyen qui contient tous les moyens de grâce. Il est la médiation, il est le sacrement. Il est celui qui unit l'homme et Dieu. Et donc, il porte en lui tous ces moyens de grâce de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Et c'est lui qui nous conduit vers le Père. Il est la route vers le Père.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut pas distinguer l'incarnation et la passion et la résurrection, on peut dire de toute éternité, l'incarnation du Verbe était prévue d'une certaine manière, c'est son dessein qui précède même la création des hommes. Mais cette incarnation, il a été rendu nécessaire la passion et la résurrection pour sauver les hommes. Mais est-ce qu'on peut distinguer les choses?
Tout dépend. L'incarnation. Elle est nécessaire pourquoi à ce moment-là? Si vous prenez cette optique, elle est nécessaire pour communiquer la divinisation. Mais la divinisation était déjà en œuvre. Donc, elle ne rencontre aucun obstacle dans l'homme. Pourquoi faut-il à ce moment-là que le Verbe devienne un individu?
Mais alors, pourquoi a-t-il fallu qu'il souffre?
Et parce que pour souffrir, il fallait qu'il devienne un individu humain. Il n'y a pas d'autre moyen. Là, il y a une absolue nécessité. Pour réparer, ça ne peut se faire que dans un individu humain. Mais pour diviniser, il ne semble pas, on ne voit pas qu'est-ce qui faisait la difficulté que pour laquelle il aurait fallu que ça passe par un individu. Vous voyez, il y a une dimension kénotique dans l'incarnation qui n'a pas grand sens dans une perspective de divinisation. Mais bon, c'est un domaine, comme je vous dis, qui reste ouvert, on peut argumenter dans un sens et dans l'autre. Personnellement, je ne vois pas. Je ne vois pas quelle nécessité il y a dans l'incarnation. Elle est toujours substitutive, elle est vicariale, l'incarnation. Elle prend notre place. Il se substitue à nous. Et pourquoi il se substitue à nous? Parce qu'il y a le péché. Pourquoi est-ce que pour la divinisation, il aurait fallu qu'il se substitue à nous dans une humanité particulière? Non, l'humanité aurait de toute façon constitué une famille unique. Enfin, elle aurait été dans un tout autre état de communion entre elle, avec Dieu, avec les anges, etc. Bien sûr, c'est le Verbe qui l'aurait conduite, mais l'aurait conduite de l'intérieur même du cœur des hommes. Vous voyez, parce qu'il n'y aurait eu aucune... Les missions visibles, saint Thomas dit que les missions visibles sont au service des missions invisibles. Mission visible, c'est l'incarnation et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, de manière visible. Et l'île sont au service des missions invisibles. À partir du moment où les missions invisibles peuvent jouer leur rôle et commander de l'intérieur la vie des hommes, vous voyez, ça ne s'impose pas. On peut penser que c'est mieux comme ça, mais ça ne... Et le danger est fort à ce moment-là, sinon, de prendre le moyen pour la fin.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut donc dire que le péché de l'homme a modifié une décision en Dieu à...
Non. Non, parce que le but de Dieu, c'est l'adoption filiale. Mais cette adoption filiale, elle passe par... Il y a déjà des moyens pour la réalisation de cette adoption filiale-là, avant même le Christ, qui intervient en fonction du péché. Ces moyens, c'est la grâce divinisante, la grâce adoptive, la grâce sanctifiante, appelez-la comme vous voulez, mais aussi l'acceptation par l'homme, par la liberté humaine de cette grâce. Cette grâce nous dispose, mais elle ne nous détermine pas. Elle va susciter, va incliner notre oui, notre fiat. Mais il n'est pas automatique. Donc, ces moyens nous sont donnés d'une manière assez conditionnelle. Je veux dire, autant le but est inconditionnel, autant les moyens, un aspect des moyens, c'est l'acquiescement de la création. Donc Dieu fait éternellement son dessein comme cela, et donc d'emblée il va voir que qu'Adam ne répond pas et qu'il y a le péché, et ça il le voit au présent, il ne le voit pas comme un futur pour lui, il le voit en train de s'accomplir, et donc c'est pour ça que le Christ est éternellement prédestiné. Parce que Dieu, mais vous voyez, Dieu voit tout, mais il voit en même temps l'aspect libre de ces moments. Donc le péché n'était nullement nécessaire. Le péché restait un acte libre de l'homme, donc Adam aurait pu ne pas pécher. C'est pas non plus un acte nécessaire. Mais Dieu le voit tout cela au présent. Et donc, au présent de son éternité, évidemment, le Christ est prédestiné. Mais il est prédestiné en fonction, compte tenu du péché. Non pas prédestiné, non sans considération du péché, comme à ce moment-là, d'une certaine manière, s'il vient comme rédempteur, il faut que l'homme pêche pour que le Christ puisse advenir. Ce qui est une manière de comprendre de travers la fameuse phrase de l'Exultet, heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel rédempteur. Vous voyez, comme si, je ne dis pas que c'est comme cela que l'Église la comprend, elle est heureuse parce que Dieu lui a fait grâce, lui a fait miséricorde, non pas du tout parce qu'elle aurait par elle-même une sorte de causalité négative qui fait que le rédempteur est obligé de venir, si vous voulez. Hein, ça, Il faut bien la comprendre, cette parole, parce qu'elle peut être comprise de travers, comme si le refus de l'homme avait valu, au sens d'une sorte de mérite presque, le rédempteur. Ce n'est qu'une pure cause occasionnelle, si vous voulez, là, pour le coup, totalement occasionnelle. C'est-à-dire qu'elle a été l'occasion pour Dieu de nous donner l'incarnation du Christ. Mais nous aurions, Dieu nous aurait donné aux hommes son Fils par la mission invisible de manière autrement plus paisible et on l'aurait eu autant dans un univers de justice originelle. Parce que le Fils, ultimement, il nous est donné dans la mission invisible. À quoi sert la mission visible si nous rendons possible cette mission en nous, cette communion nuptiale en nous avec le Père. Vous voyez, c'est là où la mystique nous aide beaucoup pour comprendre la théologie dogmatique. Le Christ, tant qu'il nous reste extérieur, n'est pas entré en nous. Or, il entre en nous par une mission invisible, c'est celle de la grâce. Alors, pourquoi Maxime le Confesseur? Parce que Maxime le Confesseur a été redécouvert en Occident par Urson Balthazar dans un livre très célèbre qui s'appelle « La liturgie cosmique de Maxime le Confesseur ». Écrit dans le début des années 40, un allemand traduit en français assez vite, et que dans ce livre, Urson Balthazar dit il croit voir, et effectivement il y a des textes de Maxime qui pourraient être compris comme cela, que Maxime le Confesseur tient à l'avance la thèse de Duns-Scott. Il serait même le seul père, puisque lui-même reconnaît que même après lui, Saint Jean Damascène ne tiendrait plus cette thèse et aurait la thèse classique qu'on trouve antérieurement et postérieurement chez les pères. Donc Maxime serait comme une sorte de parenthèse qui anticiperait ce qui a été redécouvert par Duns-Scott et dans lequel Urson Balthazar se reconnaît. C'est sa pensée personnelle comme celle de nombreux théologiens aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait dire cela à Urson Balthazar? Donc là, j'en viens à ce premier chapitre de mon livre qui commence à la page 23. Ce sont des textes que je vais vous lire, mais je commence par vous lire un texte que je donne, que je n'ai pas mis ici. Mais c'est dommage, c'est à la page 23, je cite un premier texte de Maxime, qui est un texte de jeunesse, dans un commentaire du Notre Père. Voilà ce que dit Maxime. L'œuvre du conseil divin, c'est la divinisation de notre nature, et le but des pensées divines, c'est de conduire notre vie au terme de ce que nous recherchons. C'est-à-dire qu'il n'est pas question du Christ. L'œuvre du conseil divin, c'est la divinisation de notre nature. Et le conseil divin, c'est les saints divins, si vous voulez, mais qui est parfois présenté comme un conseil, puisque les trois personnes de la Trinité, chacune avec sa modalité personnelle, sa caractéristique personnelle, ont voulu ensemble toute l'œuvre de la création. Hein, donc l'œuvre du conseil divin, c'est la divinisation de notre nature, et le but des pensées divines, vous voyez, le but, le scopos, c'est de conduire notre vie au terme de ce que nous recherchons, c'est-à-dire la béatitude, l'union avec Dieu. Mais à la page 26, nous trouvons... c'est à la page 25. Nous trouvons un premier texte, qui est notre texte de 3 dans nos feuilles, de Maxime, qui fait partie de ces textes dans lesquels Urson Balthazar croit avoir déjà la thèse scotiste. Lisons-le. Celui qui, par la seule impulsion de sa volonté, celui, majuscule, c'est Dieu, hein, a établi l'origine de toute la création visible et invisible, invisible, avant tous les âges et avant l'origine même des créatures, tint à leur sujet le conseil de son ineffable bonté. C'était de se mêler lui-même, sans changement, à la nature humaine, par une véritable union selon l'hypostase, et de s'unir à lui-même la nature humaine sans l'altérer. Ainsi devint-il homme, selon que lui seul le sait, et fit-il l'homme Dieu en se l'unissant, divisant ainsi les âges avec sagesse, et déterminant les uns pour l'œuvre de son incarnation, les autres pour la mise en œuvre de la divinisation de l'homme. Voyez que, on comprend effectivement que Saint Balthasar, sur un texte comme celui-là, dit donc ce que Dieu a voulu d'entrée de jeu, c'est l'union hypostatique, l'incarnation. C'est ça le but du dessein de Dieu. Alors que la fin aurait dû déjà l'alerter, puisqu'il dit que Dieu a divisé ainsi les âges avec sagesse, déterminant les uns pour l'œuvre de son incarnation, les autres pour la mise en œuvre de la divinisation de l'homme. Donc il apparaît que l'incarnation est là comme instrumentale par rapport à ce qui reste le but du dessein divin, qu'il a lui-même expliqué dans le texte que je viens de vous lire, comme dans son commentaire de Notre Père, comme étant le but du dessein de Dieu. Mais continuons, ceci est dans les Questiones Santalatio, vous voyez, cité ici comme Q Tal, 22, c'est Questiones Santalatio, vous avez la traduction de cela dans Source Chrétienne maintenant, et là c'est ma traduction que j'avais faite personnelle. Autre texte encore dans les Questiones Santalatio, qui va encore plus, semble aller plus dans ce sens, c'est le grand mystère caché, la fin bienheureuse et le but pour lequel tout fut créé. C'était le but divin antérieur à toute existence. Le regard fixé sur ce but, Dieu a appelé les choses à l'existence. C'est la limite vers laquelle tendent la providence et les choses qui sont sous sa garde, là où les créatures accomplissent leur retour à Dieu. Là aussi, intéressant, vous voyez qu'apparaît que ce mystère qui est la fin, c'est là où les créatures accomplissent leur retour à Dieu. C'est le mystère qui circonscrit tous les âges en manifestant la grande volonté de Dieu sur infini, inconcevable et infiniment préexistante aux âges. Car pour le Christ, pour le mystère du Christ, et vous verrez que c'est très important qu'il dit le Christ, mais tout de suite il dit, en fait, pour le mystère du Christ. Et s'il y a ce dédoublement, c'est que ça n'est pas une pure redondance. Tous les âges existent et tout ce qu'ils contiennent dans le Christ, ils ont reçu leur principe, car pour le Christ, pour le mystère du Christ, tous les âges existent. Et tout ce qu'ils contiennent, dans le Christ, ils ont reçu leurs principes et leurs fonds. Cette synthèse était déjà préméditée avant tous les âges, synthèse de la limite avec l'infini, de la mesure avec le sans-mesure, du borné avec le sans-borne, du créateur avec la créature, du repos avec le mouvement. À la plénitude des temps, cette synthèse fut visible dans le Christ. Apportant, alors vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, à la plénitude des temps, cette synthèse fut visible dans le Christ. Donc cette synthèse, cette communion de l'homme avec Dieu, qui est le mystère du Christ, fut rendue visible dans l'incarnation du Christ, apportant l'accomplissement des projets de Dieu. D'après ce texte, je vous lis ce que j'écris, page 26. D'après ce texte, commente Urson Balthasar, il n'est pas douteux que Maxime, contrairement à Saint Jean Damascène après lui, se serait rangé du côté de Duinscott dans la controverse scolastique. C'est l'union du monde avec soi-même et avec Dieu, et non pas le rachat du péché qui est le motif ultime de l'incarnation, et donc la pensée première du Créateur avant toute la création. Déjà, une telle formulation montre une non-compréhension, car le rachat du péché n'est pas le motif ultime de l'incarnation. Le motif ultime de l'incarnation, c'est d'unir l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. C'est ça le but. Mais s'il a fallu l'incarnation et le rachat, c'est parce que justement, il y avait le péché. C'est pas que le rachat du péché soit le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est de nous dire à Dieu. Mais il a fallu cela parce que l'homme s'était séparé du péché. On peut se demander si un tel rapprochement ne dénature pas et la théologie de Maxime le Confesseur et même la thèse scotiste sur le motif de l'incarnation. Comme l'a très finement noté le père Louis Bouillet, l'incarnation telle qu'on la trouve, en tout cas chez Dean Scott, n'a pas un rôle instrumental par rapport à la divinisation des hommes, abstraction faite du péché et de la rédemption, mais est en revanche exigé par l'adoration parfaite que Dieu attend des créatures et que seul son Fils, devenu homme, peut lui offrir. Vous trouverez ça chez le Père Millier, voilà, page 473-474 de son livre Le Fils éternel. Saint Anselme de Canterbury est passé par là. Le Christ est avant tout une exigence de Dieu qu'il doit adorer parfaitement en tout état de cause et qu'il doit de plus satisfaire si l'homme l'a offensé. On ne pense pas tellement le salut de l'homme que soit l'offense faite à Dieu dans le cas d'Anselme, soit le désir que Dieu avait d'être adoré parfaitement par une créature. Ce qui est un peu aberrant parce que je dirais, Dieu n'avait pas besoin de cette adoration. S'il est vraiment Dieu, il n'a pas besoin. Donc, s'il désire que la créature l'adore parfaitement, c'est pour qu'elle devienne divine, pour qu'elle devienne sainte, pas parce que lui trouverait quelque chose qu'il n'a pas sans elle. On est ici à l'opposé de sa maxime qui ne conçoit l'incarnation que comme moyen économique du dessein bienveillant de Dieu pour les hommes. Le scotisme, Kurz von Balthasar y attribue, ressemble de fait plus à la vision d'un Teilhard de Chardin qui voit la divino-humanité du Christ comme l'achèvement de l'évolution humaine. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Anselme, mais Hegel qui est passé par là, avec sa confusion entre finitude créée et péché de la créature. Vous savez que dans toute cette pensée qui commence déjà chez Leibniz et qui s'aggrave chez Hegel, il n'y a pas une distinction très nette entre finitude et culpabilité. La finitude elle-même est une forme de culpabilité. Et donc, c'est quelque chose qui d'une certaine manière, le fait d'être créature et le fait de ne pas être Dieu est déjà une sorte de faute. D'ailleurs, ceux qui soutiennent aujourd'hui ce déoscotisme d'inspiration teilhardienne, le plus célèbre, c'est le père Martelet, dans les différents articles qu'il a fait, que je cite ici à la page 27 en note, ceux qui aujourd'hui tiennent donc cette thèse néoscotiste d'inspiration teilhardienne ont fini par reconnaître honnêtement qu'il est étranger à la christologie des pères. C'est ce que dit ici le père, dans ses articles, le père Martelet. C'est d'ailleurs chez Maxime, on arrive à la fin, c'est ça. C'est d'ailleurs chez Maxime que ce néoscotisme trouve sa réfutation quand il refuse de voir à la suite de Sévère d'Antioche dans le verbe incarné une seule nature composée du créateur et de la créature venant couronner le cosmos une perfection. Continuerons un petit texte.